tous les sports. CFM.
Lundi Sport, bonjour, avec dans nos studios ici à Montauban, Jennings, Jean-Claude Desfarges-Acaillus, David Dumont, Jean-Claude Vigroux et David Fabier dans nos studios de Rodez. Chaque lundi, cette équipe se réunit pour vous donner les résultats du week-end en foot, en rugby et autres sports locaux, nationaux, voire internationaux. Dans quelques instants, nous nous intéresserons. C'est une bonne question. Où est mon conducteur, David? Est-ce qu'il est là, David? Il est là. Super, David. Au secours.
Allô. Oui, oui, bien sûr, je suis là. Bonsoir à tous.
Ah oui, au VTT, la VTT Attitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, dites donc?
Eh ben, c'est une opération nationale, donc lancée par la Fédération française de cyclotourisme, qui veut nous sensibiliser à la bonne pratique du VTT en particulier. On parlera de sécurité, mais pas seulement.
Tout le monde en VTT, y compris Jean-Claude Vigroux. Bonjour Jean-Claude. Il n'est pas là, Jean-Claude. Allô, j'ai plus personne du coup. J'ai carrément plus rien dans mon casque. Alors je sais pas. Là, j'entends plus rien.
Allô.
Je suis là.
Alors, vous m'entendez, vous? C'est bien, c'est rien, c'est mon casque qui a dû être débranché. C'est pas grave. Alors, merci.
Merci Aurélien. Mais il y a tout le monde.
Allez, il y a tout le monde. Donc, il y a Jean-Claude Vigroux, il est là.
Eh bien, nous avons toujours le Paris Saint-Germain en tête. Paris Saint-Germain qui est allé chercher le nul face aux prétendants à la descente Sochaux. C'est l'équipe qui avait le plus faim, les Sochaux, Sochaliens, qui ont fait le match, qui ont bien joué, qui ont bien résisté à cette équipe de Paris. Par contre, du côté de Paris, on a vu un magnifique but de Cavani, qui recevant une balle en profondeur de Thiago Motta, amortit cette balle et reprise de volée entre les jambes de Pelé, le gardien de Sochaux. Donc le Paris Saint-Germain est en tête avec 83 points. Monaco, quant à lui, a été étrié Ajaccio sur le score de 4-1. Lille, sur son terrain, a battu Bordeaux 2-1. Ça a été difficile, mais conserve la troisième place avec 67 points. Saint-Étienne a fait la bonne opération en allant gagner à Évian. Lyon, quant à lui aussi, a fait une très excellente opération en battant sur son terrain une autre équipe corse, l'équipe de Bastia, par 4-1. Et Marseille a un peu patiné dans la choucroute puisqu'ils n'ont fait que le nul à Nantes, 1-0. Je pense que Marseille est écarté de toute coupe européenne. Il faudrait qu'il gagne les 3 matchs qui restent à effectuer. Quant au Paris Saint-Germain, je pense qu'ils ont décidé de fêter la montée sur leur terrain du Parc des Princes.
Le mois de mai, on y est presque, le 7 mai prochain a priori, hein, pour ce titre de champion de France, si tout va bien pour le Paris Saint-Germain, PSG qui n'a pas réussi donc à être sacré hier soir du côté de Sochaux. On va parler de judo aussi.
Ouais, mais attends, Jennings, il était pas content sur le PSG.
Ah oui, mais ça, ouais.
Non, sur ce que t'as dit, c'est pas sur ce que t'as dit, je suis d'accord avec toi. C'est Jean-Claude, c'est juste que le PSG depuis quelques temps, même depuis le début de l'année 2014, ne fait pas de bons matchs. Le seul match qu'ils ont fait de bon, c'est face à Leverkusen quand ils les ont explosé 4-0 là-bas. Et hormis ça, il y a des joueurs, et ben ils font un peu n'importe quoi. Thiago Silva, Verratti, je pense que ils y sont plus quoi. Thiago Silva, il pense qu'à la Coupe du Monde maintenant. Et puis il y a aussi le problème de Laurent Blanc. On voit que quand même Laurent Blanc n'est pas encore un grand entraîneur. Ouais.
Je voudrais te poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de la sanction de l'UEFA qui risque de tomber sur le Paris Saint-Germain pour les fonds occultes qu'ils ont eus avec l'Office de tourisme du Qatar qui risque de les pénaliser? Parce que la sanction, j'ai lu ça ce matin sur Internet, risque d'être très très lourde.
Ouais, mais écoute, moi j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a plein d'autres clubs, je pense à Manchester City, il y a quelques temps c'était Malaga... Et il n'y a pas eu de problème. Et là, parce que on est en France, parce que Paris est mal vu ou je ne sais quoi, ou voilà, on veut leur taper dessus. j'ai du mal à l'accepter, moi. Bon, maintenant, s'il faudra faire avec, ben, il faudra faire avec, mais ça voudrait dire que le PSG devrait dégraisser, c'est-à-dire faire vendre des joueurs pour faire marcher un peu et avoir plus d'argent. C'est quand même dommage, quoi.
Allez, la suite.
La suite, c'est du judo, hein, avec des championnats d'Europe qui se disputaient pas loin de chez nous, on va dire, à Montpellier cette fin de semaine, et des judokas français, eh bien, qui ont survolé la compétition, hein, cette compétition continentale. 13 médailles au total pour les judokas français, dont 6 en or, et avec parmi ces 6 médailles d'or, ces 6 titres de champion d'Europe, évidemment celui de Teddy Riner, qui n'a pas masqué, hein, les autres résultats, les autres grandes performances des judokas français. Teddy Riner, c'est son 11e titre international, le plus grand judoka de tous les temps. Là, c'était un championnat d'Europe pour lui, j'ai envie de dire facile, et des Français, première nation du judo en Europe.
Et on enchaîne immédiatement peut-être avec des résultats du rugby, Jean-Claude Desfarges.
Oui, alors du rugby, alors donc ce week-end, c'était pour... Il n'y avait pas de top 14, c'était l'Age Cup qui avait repris la place. Alors pour bien résumer, en début de saison, ce championnat d'Europe comportait 7 clubs français. Ils se sont retrouvés à 3 clubs restants pour les quarts de finale, Toulouse, Toulon et Clermont-Ferrand. Les deux, Toulouse et Clermont et Toulon ont joué les demi-finales, Toulouse a été éliminée. Et sur ces demi-finales, Clermont-Ferrand a pris une drôle de branlée au Sarrazins après un arbitrage plus que limite, parce que les réseaux sociaux l'ont signalé tout le samedi après-midi et tout le dimanche. Il y a eu un arbitrage honteux de la part de l'arbitre qui a arbitré ce match. Enfin, Clermont est éliminé. Toulon a eu du mal aussi avec l'arbitrage, mais ça en est quand même pas mal sorti grâce à un grand Wilkinson qui a marqué les 24 points de son équipe. Toulon a battu le Munster par 24-16. Donc la finale, qui aura lieu le 24 mai pour la Grande Coupe d'Europe de rugby, sera entre Toulon et les Saracens. Elle a lieu au Millennium Stadium de Cardiff. Il y avait aussi de la Pro D2, on jouait la 28e journée. Alors officiellement, Lyon est champion, donc Lyon monte en top 14. L'équipe emmenée par Chabal et Nalé a réussi son pari de monter en top 14. Pour Chabal, ça va être ses derniers matchs puisqu'il arrête sa carrière sportive de haut niveau, on va dire. Pour Nalé, on ne sait pas trop. Agen se devait de gagner contre Dax, elle l'a fait pour maintenir sa deuxième place au classement, ainsi que La Rochelle. Alors Agen a battu Dax 30-17, La Rochelle a battu Aurillac par 29-0, et Pau a gagné aussi à l'extérieur à Carcassonne par 33-27. Pau se remet en quatrième place du championnat. Par contre, en fin de classement, Carcassonne, Bourg-en-Bresse et Auch, ça sent la Fédérale 1 pour la montée, vont jouer les barrages. Agen, La Rochelle, Pau et Narbonne. Et en fin de classement, Dax va essayer de lutter avec Carcassonne pour ne pas descendre. Voilà pour la Pro D2.
Merci Jean-Claude Desfarges, on te retrouve tout à l'heure pour bien les résultats locaux avec des reportages. Il y aura également un reportage signé Fred sur l'USM, mais ça sera dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pub. Est-ce que vous avez la VTT attitude?
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Une révolution près de chez vous. Elle s'appelle PrestiVap, un concept écologique de nettoyage automobile complet à la vapeur. Votre voiture va être chouchoutée grâce à une prestation éco-responsable haut de gamme, entièrement réalisée à la main, rapide, efficace et sans trace. PrestiVap, c'est un service à domicile sans frais de déplacement autour de Montauban, un choix de formule à partir de 25€ et une qualité irréprochable grâce à la puissance de la vapeur.
Renseignements et tarifs sur www.prestivap.com.
Attention, concert événement le vendredi 16 mai à Rignac. Le groupe Compay Segundo, créateur de Buena Vista Social Club avec son célèbre chanchant, donnera son seul concert dans la région. Rendez-vous à 20h à l'espace André Jarlan de Rignac. Prévente réseau habituel et au restaurant Le Rascanel à Rignac. Infoline 06 83 32 69 38.
Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse, c'est toujours des conseils, des idées originales, un choix exceptionnel de plus de 500 variétés d'arbres, d'arbustes, sur plus de 10 hectares. C'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Jean-Philippe Ronchini et son équipe dynamique vous accueillent tous les jours, du lundi au samedi.
C'est la quinzaine de l'arbuste aux pépinières Ronchini, du 28 avril au 10 mai. Venez profiter de remises jusqu'à moins 20% sur les plantes de haies et les arbustes à fleurs. Ouverture exceptionnelle le jeudi 8 mai. Renseignements sur pépinières-ronchini.com.
Dans les magasins Cash Converters, on convertit tous vos objets en cash. Alors, si vous voulez vendre vos jeux vidéo, vos DVD, vos téléphones, vos bijoux, de l'informatique, venez dans un magasin Cash Converters. C'est facile, c'est rapide et ça vous rapporte plein de cash.
Liste des magasins sur cashconverters.fr.
Cash Converters convertit tous vos objets en cash.
Soyez cash. Votre magasin Cash Converters à Montauban ouvre ses portes à tous. Rendez-vous galerie marchande Auchan face au parking. Cash Converters Montauban, ouvert de 9h30 à 19h30 sans interruption.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
As-tu la VTT Attitude ? C'est la Fédération Française de Cyclotourisme qui lance cette grande campagne de sensibilisation à destination des VTTistes pour sécuriser les VTT et les VTTistes, évidemment. N'est-ce pas, David Dumont ?
Ouais, et pas seulement d'ailleurs, on va pas bien sûr parler de sécurité, mais aussi un peu de style, j'ai envie de dire, et puis de protection de l'environnement. C'est aussi une des démarches de cette opération. As-tu la VTT Attitude ? On va en parler avec Alain Lucchini qui est avec nous. Alain est responsable du VTT à la Ligue Midi-Pyrénées de cyclotourisme. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce lundi sport. Alors d'abord, pourquoi une campagne comme celle-ci ? Est-ce qu'il y a des manquements, des problèmes, des choses comme ça du côté des VTTistes ?
Bon, on peut pas dire qu'il y a des problèmes, mais bon, des manquements certainement, il y en a toujours, et dans toutes les activités sportives, il y a toujours des manquements. Donc effectivement, la FFCT a souhaité petit à petit mettre en place ce genre de proposition, et afin de justement essayer de mettre en place certaines pratiques respectueuses de l'environnement, vous l'avez cité tout à l'heure, l'entraide et puis surtout aussi le respect des organisateurs. Voilà, donc en gros c'est un petit peu ça. Bon, évidemment il y a une charte qui a été éditée par rapport à ça, et il y a plusieurs thèmes à l'intérieur, donc on peut peut-être retirer certains enseignements de ça. Voilà, et en gros c'est un petit peu ça. Hein.
Ça concerne beaucoup de monde, le VTT en Midi-Pyrénées ?
Ah oui, ça concerne énormément de monde, oui. Et ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est de fédérer de plus en plus les VTTistes qui, par ce biais-là, pourront justement savoir ce que c'est que la VTT Attitude, parce qu'on s'aperçoit que c'est un sport qui est essentiellement pratiqué en individuel, et donc pour passer les bonnes informations, il y a les fédérations, et donc, on s'attache beaucoup à ça.
Le VTTiste midi-pyrénéen, il est plutôt solo ou il est plutôt en club ?
Ah, mais de toute manière, il est comme tous les bons Français, il est en solo, et donc c'est un reflet de la société d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc, de plus en plus de gens pratiquent, notamment dans le VTT, bien entendu, le cyclisme, c'est pareil, pratiquent en solo. Donc,
Que ce soit sur les routes pour les cyclotouristes le dimanche ou sur même nos chemins de campagne ici, par exemple, quand on va un peu dans les gorges de l'Aveyron du côté de Saint-Antonin-Nobleval, on s'aperçoit que le VTTiste, il est plutôt en groupe, quoi. Ils font des sorties, quoi.
Oui, tout à fait. Il est un groupe, mais il est un groupe individuel, à savoir qu'il n'appartient à aucune fédération.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc, c'est là où c'est très très difficile de toucher ces gens, et notamment pour leur expliquer les bonnes pratiques. C'est un souci pour nous, pour toutes les fédérations, et donc c'est vrai que on assiste des fois à des débordements. Donc c'est pour ça que la FFCT a mis en place cette VTT Attitude.
David Dumont.
Ouais Alain, alors justement la VTT Attitude, vous pourriez nous donner quelques points, je vérifie si je l'ai ou pas, quoi. C'est quoi la VTT Attitude ?
Ben déjà savoir un vélo en bon état, hein, conforme à la réglementation, puis après c'est aussi le respect des codes de la route en tout lieu, en toutes les circonstances. C'est aussi rester courtois et discret avec les autres usagers. Bon, après c'est la maîtrise du VTT, bien entendu. Les dispositions de sécurité, à savoir être visible de jour comme de nuit. C'est pas parce qu'on est sur le sentier qu'il faut pas être visible, notamment avec nos amis les chasseurs. Il est important qu'on soit visible aussi.
Et ouais, pas pris pour des perdreaux.
Oui. Bon. Et en fait, ça se passe relativement bien, parce que bon, moi je les côtoie régulièrement, et puis on s'aperçoit que quand on a un dialogue avec eux, il y a aucun souci, ça se passe très très bien. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le port du casque, bien entendu, et ça, c'est quelque chose qui rentre maintenant dans les mœurs.
Il est aujourd'hui facultatif, hein, il est toujours facultatif. Vous souhaiteriez qu'un jour que ce soit rendu obligatoire, ça?
Ah, là, vous me posez une colle. au niveau de la FFCT, il n'est pas obligatoire. Après, ça, je pense que ça relève des décisions en nos lieux. Pourquoi il n'est pas obligatoire, ça, je ne suis pas là pour en discuter, mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de traumatismes par rapport à ça, et c'est un petit peu comme la ceinture de sécurité, c'est la seule protection qu'on a sur un vélo. Hein. Donc après, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Bah, écoutez, pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, on s'en tient à ça. Mais nous, les vététistes, il faut savoir que chez les jeunes, il est obligatoire. Hein.
Ah, voilà, oui.
Ah oui, oui.
Dans les clubs, chez les jeunes, aujourd'hui, dans les sorties, il est obligatoire de toute manière. Hein,
Oui. Et puis, on a justement, on forme des moniteurs pour la pratique du VTT, justement pour les encadrements. Et évidemment, dans l'intérieur des formations, c'est répété. Mmh. C'est quelque chose qui est...
Alors cette grande campagne, finalement, pour arriver à toucher tous ces gens-là, elle se déploie de quelle manière?
Alors elle va se déployer un petit peu partout, hein, sur le terrain, notamment sur les verts tout terrain, qui sont des manifestations labellisées Fédération Française de Cyclisme, de Cyclotourisme, pardon, et les maxi vertes qui sont aussi des épreuves qui sont labellisées. Notamment la toute prochaine aura lieu à Albertville en Haute-Savoie. Et c'est 5 jours de plaisir VTT, donc vous voyez. Ensuite, elle sera diffusée à l'intérieur des clubs, et puis elle sera aussi diffusée, puisqu'on intervient maintenant dans les écoles, on va faire en sorte qu'elle soit aussi diffusée dans les écoles.
D'accord.
De façon à toucher de plus en plus les jeunes, parce que c'est là où on peut donner du sens à cette charte.
Alors,
hein, chez les jeunes, parce que ça ne touche pas que les... ça touche tout le monde, mais essentiellement les jeunes, bien entendu.
Jean-Claude Desfarges ou Vigrou ou David Fabien, une question peut-être?
Ouais, je voulais savoir qui nous rappelle sur les circuits de balisage concernant le VTT, à quoi correspondent les ronds rouges, les ronds noirs et les ronds verts?
Alors bon, ce sont des balises spéciales VTT, effectivement. Alors les rouges, bon, rouges, noirs et verts, ce sont les grades de difficulté. Hein. Vous trouvez ça sur les pistes de ski, hein. C'est le même type. Hein. Donc évidemment, plus vous allez vers le noir, plus c'est difficile. Quand vous trouvez un balisage vert, donc c'est un petit peu moins dur que le noir. Hein. C'est ça. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Parce que c'est pareil, le noir, ça s'adresse quand même à des vététistes qui sont confirmés, qui ont une pratique régulière et qui sont quand même des sportifs. Hein.
Rémi parlait tout à l'heure des Gorges de l'Aveyron. Moi, j'habite dans le coin. On a beaucoup de vététistes qui viennent l'été se mesurer sur des pistes qui ont été balisées. Certaines empruntent des portions rouges. Et nous, on les voit sans casque. On en ramasse tous les ans 4 ou 5 qui se sont fracassés la tête contre des arbres. Moi, je pense que le port du casque sur certaines portions... avec des difficultés de ce style, rouge-noir devrait être obligatoire.
Oui, ou devrait être vivement conseillé.
Oui, oui, on peut le penser, oui. Vous savez, hier, j'étais sur une manifestation justement dans le Tarn, hein, une très grosse manifestation organisée par la FFCT. Je ne vais pas la citer, bien entendu. Et effectivement, hier, il y a eu un gros accident. Il y a eu un gros accident. Quelqu'un qui s'est cassé un poignet. Donc, vous voyez, bon...
Ah, le poignet, le casque, il n'aurait pas fait grand-chose. Hein.
Non, mais bon, je veux dire, il a dû taper aussi. Ça veut dire que quelque part, bon, c'est pas inutile. Hein.
Je suis sur votre site internet, ffct.org, et il y a un test, alors je suis en train de le faire, là, pour le moment je crois que je suis pas très bon, hein, donc c'est le test as-tu la VTT attitude, je vous livre la question 3, je la livre à tout le monde, hein. Pendant la randonnée, tu doubles un vététiste arrêté, assis sur le bas-côté et qui saigne, comment réagis-tu? Alors petit A, je ne m'arrête pas, je ne regarde pas, il saura bien se débrouiller et je dois être rentré à midi. Réponse B, je m'arrête pour savoir s'il a besoin d'aide, j'ai une trousse de secours et mon téléphone. Réponse C, je rigole en lui disant la gamelle était bonne, tout va bien, et je continue en espérant une réponse positive. Alors moi je mettrais bien la B, mais j'ai pas de trousse de secours quand même, hein, donc je m'arrête quand même parce que je suis sympa avec lui.
Et concrètement, on fait tous la C.
Concrètement, on fait tous la C.
Oui, c'est ça. Effectivement, la question que vous posez là, elle rentre complètement dans la charte et elle est dans le réflexe sécurité, à savoir qu'en cas d'accident, je reste calme, je me protège, la victime et les témoins, je signale et balise le lieu de l'accident pour éviter d'engendrer un deuxième accident, j'assure les premiers soins d'urgence si je suis formé aux gestes de premier secours. Voilà. Ça, c'est dans la charte. Et je rajouterai une chose qui est très importante, à savoir que lorsque l'on part avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, la première des choses à faire, c'est de lui demander qui on doit avertir en cas de souci, en cas de problème, en cas d'accident. Parce que je me suis souvent aperçu que les gens pédalent en groupe comme ça, et effectivement, eh ben, quand il y a un gros problème, eh ben, on ne sait pas qui avertir. Mmh. Et ça, c'est un souci.
Alors, as-tu la VTT attitude ? On retrouve ça sur votre site internet. Il y a une campagne d'affichage dans les clubs, j'imagine, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a...
Oui, il y a des grandes affiches qui seront affichées dans les clubs. Alors, on va essayer de voir comment on peut le promotionner, évidemment. On peut télécharger ça, vous l'avez dit, sur le site de la FFCT. Hein. Donc, c'est tout à fait téléchargeable. Voilà.
Voilà, et puis, quand on aura, du coup, si on est un club et qu'on organise une sortie, on peut aussi sensibiliser ses adhérents ou sensibiliser les gens qui vont venir en individuel à cette sortie, à votre campagne.
Tout à fait, c'est justement le but, c'est ça, c'est de dans nos manifestations de placarder ces affiches et toucher un public qui lui n'est pas fédéré et qui n'est pas licencié. Oui, tout à fait, ça rentre dans ce champ-là.
Alors voilà, tu as la VTT attitude, si ton casque est bien positionné, si tes lunettes et tes gants sont là pour te protéger, si ton VTT est révisé et entretenu régulièrement, si tes chaussures sont crantées et bien attachées, si ton short est confortable et si ton maillot est de couleur claire pour être vu, notamment par les chasseurs, mais pas que, hein, parce que de temps en temps, amis VTTistes, vous traversez la route sur laquelle il y a des voitures, voilà.
Oui.
Non mais voilà, il faut faire gaffe, c'est tout. Merci d'avoir été.
Oui, c'est comme dans toute pratique, il faut faire attention. Mais on est aussi tributaire des autres, et donc on est maintenant de plus en plus à pratiquer des sports loisirs, que ce soit le VTT, la marche, l'équestre, et voir des pratiques motorisées. Donc il faut se respecter les uns avec les autres.
C'est sûr qu'on partage tout, on partage tous la campagne hein, aujourd'hui. Donc.
Ben oui, je crois. Oui. C'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Hein. Sinon, ben voilà. Ouais.
Alain, prochain rendez-vous, peut-être des rencontres autour du VTT et du cyclotourisme en région Midi-Pyrénées. Je rappelle que vous êtes responsable du VTT hein, pour la Ligue Midi-Pyrénées.
Ben oui, c'est toujours un plaisir de pouvoir donner des informations au grand public et puis surtout de montrer qu'à la FFCT, ben, on est capable de se préoccuper de la pratique de nos adhérents, voire des autres aussi. Hein. Donc mon rôle, il est là, mon rôle, il est au niveau régional de passer la bonne information. Afin que justement,
vous avez une date dans l'agenda, qu'est-ce qu'il y a de beau ces prochaines semaines dans notre région?
Alors, très bien, mais vous avez, je vais me faire la promotion, hein, le week-end prochain, c'est-à-dire le 4 ou 5 mai, là, je ne sais plus trop, c'est le week-end hein, qui arrive, et bien, vous avez la Kersinoise à Kerriech. C'est une manifestation FFCT qui est depuis très longtemps mise en place. Je ne sais pas si c'est pas la 15, voire la 18e fois qu'elle se fait. Et c'est une très très belle manifestation, en plus qui parcourt un sentier au nord du département, voire qui frise le Lot. Donc voilà, c'est superbe. Très très belle organisation, le club est très sympathique, puisque je le connais très bien.
Voilà, et on a Christ dans la chatbox de CFM qui nous dit que le VTT est un sport. Il faut une certaine technique et expérience pour s'engager sur des traces noires. Il faut être inconscient pour partir sur une piste très difficile, sans maîtrise et sans physique. Voilà, bah ça sera...
Notamment notre rôle de moniteur, c'est justement dans les groupes comme ça, dans les clubs, de prévenir les personnes avec qui on est dans des endroits dangereux, de signaler qu'effectivement il faut être très prudent, voire descendre de VTT quand on n'a pas l'habitude, justement pour éviter ce genre d'accident.
Ça c'est clair. N'est pas Absalon qui veut. Hein.
N'est pas qui?
Oui,
Absalon. C'est le champion du monde de VTT.
Ouais, et tout le monde n'est pas Absalon, mais c'est évident. Oui. Tout à fait.
Champion du monde, double champion olympique, et là il se balade au niveau mondial en VTT, et il bat tout le monde.
Eh oui, mais bon, tout le monde ne s'appelle pas Absalon. Je voudrais rajouter quelque chose aussi, si pour les gens qui adorent le VTT, il est paru un spécial VTT Midi-Pyrénées sur une revue nationale, bon je ne vais pas la citer, qui est paru au mois de mars-avril. Donc s'il y en a
qui... citez-la parce que tant qu'on y est, que je la retrouve.
Ah, écoutez, ben alors voilà, si vous voulez que je la cite, c'est Vélo Tout-Terrain.
D'accord, Vélo Tout-Terrain.
J'ai travaillé avec la fédération, avec Sophie Morian, qui est de la Fédération française de cyclotourisme, à ce projet. Et Vélo Tout-Terrain a sorti tout un article avec plusieurs pages sur le VTT en Midi-Pyrénées.
Et bien en plus, je trouve que c'est un titre qui va bien, Vélo Tout-Terrain. Personnellement, il vaut mieux que ça s'appelle ça que...
Voilà.
Je sais pas, hein, que crêpe bretonne par exemple. Merci beaucoup.
c'est un gros plaisir pour moi, hein, de toujours, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir partager ça avec des passionnés.
Merci Alain Lucchini, responsable VTT à la Ligue Midi-Pyrénées de cyclotourisme. Merci à vous. Au revoir.
Je vous en prie, merci, au revoir.
CFM Lundi Sport et quelques mesures de Pixies, c'était Greens and Blues.
Dans la chatbox de CFM, toujours un auditeur fidèle à Lundi Sport, c'est Christ qui nous dit « Il serait nécessaire, messieurs, de se renseigner avant de porter des affirmations sur le PSG. Il ne s'agit pas de fonds occultes, mais d'un contrat avec l'image touristique d'un État. Le PSG ne devra pas dégraisser, mais les nouveaux joueurs arrivants ne pourront pas faire... La Ligue des... Alors attention, j'ai vu où, la Ligue...
Des champions.
Ah oui, ça doit être ça. Il ne faut pas s'arrêter au titre des articles, mais chercher l'information. Petite leçon que nous donne Christ au passage. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Je fais que
oui,
dire.
Il a pas tort.
Alors
non, il...
Non, le culte, c'était peut-être le mot était un petit peu fort de la part de Jean-Claude, mais il est... dans le fond, il avait quand même raison. Mais on va suivre ça de toutes les façons.
Oui, de toute façon, oui.
La question, il a fait les nains.
Lui, non.
Qu'est-ce que tu dis, Jean-Claude ?
Mais le gars qui a posé la question, il sort de les nains.
C'est peut-être une femme, hein, Chris, on ne sait pas.
Ah, Chris, en plus, c'est peut-être une fille, hein, on ne sait pas.
Ouais, hein.
C'est, on ne sait pas. Ah. Et voilà. Non, mais
c'est
attends. Tu, on peut laisser à nos auditeurs, quand même, le loisir de répondre à nos affirmations.
Tout à fait. Ouais, surtout que ouais, il a pas tort du tout. Il a même raison de reprendre un petit peu l'expression qui était un peu rude de la part de Jean-Claude. Mais enfin, il a quand même raison dans le fond.
Viril est correct, c'est Jean-Claude.
Moi, Viril est correct,
c'est simple et efficace. Chris Alchaté, Jean-Claude Vigrou, ça me met blombe, non sous ça.
Non, c'est pas moi qui pose la question, c'est Jean-Claude Desfarges.
En plus, ouais. Alors, ouais, Desfarges.
Jean-Claude.
Tout le monde m'accuse et j'y suis pour rien.
Oui, d'abord.
Jean-Claude.
Question ouverte, hein.
Oui.
Oui.
Oui, je t'écoute.
Non, mais c'était pour te donner la réponse. Allez, on se voit après les infos. À tout de suite.
CFM. CFM.
Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Arrêtez-vous chez les Maîtres du Feu, avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM. Toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir, bonsoir à tous. Politique d'abord, le Front National était en campagne ce week-end à Rodez. Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, s'est rendu dans la ville pour la campagne des élections européennes. Les thèmes à l'ordre du jour, l'Europe et l'économie. Un seul Aveyronnais est présent sur sa liste, il s'agit de Jean-Guillaume Remise. Politique toujours avec le conseil municipal de Firmy en Aveyron. 11 points au total ont été abordés, les budgets, les taux d'imposition et autres délégations. À retenir notamment la hausse de 1% de la fiscalité local. Le maire Jean-Pierre Ladrèche a également rappelé la date des candidatures pour le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. L'appel à candidature lancé voici quelques jours reste valable jusqu'au 30 avril. Les dossiers devront être déposés en mairie. Les travaux de la maison de retraite de Castelsarrasin posent une question et non des moindres. Comment reloger les 88 pensionnaires de l'établissement? Le maire fraîchement élu hérite de ce dossier sensible. Il a reçu le nouveau directeur du centre hospitalier intercommunal. L'une des solutions serait de déplacer les pensionnaires dans l'ancienne maison de retraite de Moissac, le temps que le chantier soit achevé. Il en faudra plus pour la déstabiliser. L'association Via Sahel Tarn et Garonne reste présente au Mali malgré les risques élevés d'enlèvement dans la région. Le nord du pays est placé en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères. Elles sont là et bien là, les œuvres de Pierre Soulages sont arrivées à Rodez. Depuis une semaine, Pierre Soulages supervise le pré-accrochage des œuvres qui seront exposées dans le nouveau musée Soulages de Rodez. L'artiste a participé à l'opération délicate du pré-accrochage. Pour un accrochage réussi, les œuvres doivent être accrochées au millimètre près. Et du foot pour finir, le résultat de la rencontre Pau contre Rodez, c'était ce samedi. Les Ruthénois l'ont emporté 1-0 au stade Colonel de Fornel. Rodez conserve donc sa place de leader avec 68 points au compteur. Il est suivi par Grenoble, 64 points, et Marseille Consola, 62. Prochain déplacement pour les 100 et or, ce sera samedi prochain sur la pelouse de Nice, 8e au classement. Excellente fin de journée à tous sur CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Lundi sport, la suite avec sans transition, du rugby avec Jean-Claude Desfarges.
Oui, alors donc il y avait du rugby en fédéral 1 masculine et féminine. Donc en fédéral 1, c'était les huitièmes de finale retour. Montauban recevait sur sa pelouse l'équipe de Vannes qu'il avait déjà battu sur sa pelouse à Vannes par 16-13. Et je crois que Montauban a mis l'équipe de Vannes. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui était sur le stade à nous faire un petit reportage.
Pardon? Allô?
Oui, que t'as un reportage sur le match USM Vannes.
Ah oui, d'accord. Ben ça commence comme ça, d'accord. Non, mais j'étais en train de relire mes fiches le temps que tu fasses la chronique. Alors effectivement, c'est Frédéric qui était en reportage sur ce match. Match qui a commencé par une bagarre. J'ai cru que tu allais nous en parler un petit peu plus de cette bagarre, puisqu'il y avait des tensions depuis que finalement Vannes avait il y a 4 ans de cela sorti l'USM du championnat.
Ouais. Puis il y avait aussi un petit problème avec les supporters que l'équipe de Vannes avait parqué sur leur pelouse derrière les poteaux et les supporters de Montauban n'avaient pas trop apprécié aussi.
Voilà, donc du coup tension, un match qui démarre par un coup de pied en ouverture et des joueurs de Vannes qui se ruent sur un joueur de l'USM pour lui mettre un coup de boule et de la grosse bagarre générale. Du coup il a fait un match avec des joueurs en moins quand même, il y a même un carton rouge. Hein? Voilà, bon, ce qui n'a pas empêché Montauban de gagner haut la main. Je ne sais plus quel est le score d'ailleurs, 32-0, je crois, hein,
ouais,
c'est ça.
Oui, c'est ça, ouais.
Hein, 32-0. Alors,
prévu.
Donc de là, eh ben, notre ami Frédéric a pu rencontrer sur le terrain pour commencer Salim Boukanoucha, qui est le troisième ligne.
Bon, Salim, un petit peu ton analyse du match. Une première mi-temps difficile, compliquée, vraiment. Les conditions météo vraiment pas simples, mais bon, le boulot a été fait et bien fait.
Ouais, le boulot a été fait. On avait comme pour objectif de passer ce tour, de faire une bonne entame de match. Je pense que ça a été chose faite. Après, manque de peau, ça s'est commencé par, on va dire, entre guillemets, par une petite générale. Je pense que c'est un peu ce qui nous a mis dans le match. Ça a fait de mal à personne. Malheureusement, on perd un joueur. sur carton rouge. Je veux pas discuter sur l'arbitre, mais après je pense qu'on a fait le taf et que on va essayer d'aborder le prochain tour avec détermination et travailler bien cette semaine pour que ce soit soit au Benin soit au Mezan bien abordé et pour réussir cet objectif qu'on a de monter et déjà dans un premier temps de passer ce tour et par la suite de monter.
Voilà, ça c'est Salim Boukanoucha, troisième ligne. Il a rencontré également César Delarue, le deuxième ligne de l'USM.
Ouais, c'est une bagarre. Hein. C'est une bagarre. Le truc, c'est que eux, ils ont répondu. Nous, on a fait notre travail. Là-bas, c'était un peu tendu déjà. C'est comme ça, ça arrive. Hein. Il en faut. Au moins, c'est dommage pour Luis qui sort en début de match. C'est dommage pour Pierre qui a oublié de sortir à sa place. On n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait en place. C'est ce qu'on peut regretter sur le match, mais après, on est content du score. On va pas simplement.
Bon, cette première mi-temps, c'est vrai que c'est serré 14, et puis en seconde mi-temps, vous avez déroulé, quoi.
Oui. Après, on fait notre match tout le long. On essaye de rester sérieux dans ce qu'on fait. C'est le plus important.
Bon, merci César. Bravo.
Voilà, et après avoir rencontré le troisième ligne et le deuxième ligne, eh bien, il a rencontré un des trois présidents, Thierry Echen, qui parle de ce match.
Le rêve, oui, le rêve, le voyage, on va dire. Allez, on avait dit que quand on était monté en vanne, on avait hissé la grande voile et partir sur un beau voyage. Mais écoutez, allez, c'est la première étape. Après, ça a été un match âpre, dur. Je regrette personnellement la bagarre du début de match, parce que c'est pas les valeurs qu'on inculque, mais malheureusement, on est deux sur un terrain de tennis. Hein, il y a deux équipes. Bon, après, je laisserai chacun juge. Hein, je regrette ça. Après, je pense qu'on a démontré des valeurs certaines. On a développé notre jeu, bien sûr, sous la pluie, c'est pas facile. 32-0, c'est une belle réponse, je crois. Voilà. Donc après, il faut rester humble. On sait qu'il reste 5 matchs pour réaliser le complet, comme on dit.
Ouais.
Voilà. Donc ouais, le rêve continue. Ouais. Ouais, c'est bien, ouais. C'est une belle.
Ça vous plaît, ouais.
Ouais, c'est bien, ouais.
Alors, il y avait le public, il y avait tout aujourd'hui. Il n'y avait pas le temps, c'est vrai, mais.
Il n'y avait pas le temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on voit les tribunes pleines, quand on voit le public qui pousse derrière, quand on les entend chanter. Vous savez, moi, j'en ai, il y en a que je vois depuis 4 ans. Je les vois sur tous les terrains de France, enfin, en tout cas, sur les terrains qu'on a côtoyés, qu'on a vécu. Ils font des heures de route, ils sont là à domicile, ils sont là à l'extérieur. Il y en a qui sont toujours là, enfin. Voilà, c'est une belle famille sapiakaine. Voilà, donc je pense que c'est une. On a réussi ensemble quelque chose de bien. Après, il faut que ce soit parfait, ou du moins grand. Voilà, mais encore une fois, sans les bénévoles, sans les spectateurs, sans les partenaires, sans les supporters, sans les clubs de supporters, sans la municipalité. Vous pouvez pas monter un projet comme ça, c'est pas vrai. Surtout à notre niveau, surtout avec les. Alors bien sûr qu'on a une passion commune, c'est sûr, bien sûr que c'est ce qui nous anime, on a une dynamique, mais quand on vous pousse tellement derrière, ça serait un sacrilège et un crime de lèse-majesté de pas aller au bout. Après on verra.
On l'espère à tous. Merci président.
Voilà un reportage signé Frédéric avec, pour terminer, un des présidents, Thierry Echen. Prochain match de l'USM, Jean-Claude. Allô, Jean-Claude.
Pour l'USM, pour l'instant, moi j'ai vu les supporters, ils veulent qu'on se calme un peu parce que il reste 5 matchs. Alors 5 matchs, ça va être très très dur, surtout qu'au prochain match, au prochain tour, ils vont se taper Aubenas, et Aubenas, c'est une très bonne équipe. Enfin, moi, je leur ai fait le pari qu'ils iraient en finale, et la finale, je la vois contre Massy, parce que tout va se jouer au mois de juin, là. C'est le 7 juin que ça se joue, la montée en Pro D2. Tous les matchs qu'ils vont faire avant, c'est que des matchs de qualification. Alors, pour l'instant, ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné un match contre Vannes, qui n'est pas une grosse équipe encore. Hein. Le prochain tour, chaque match suffit sa peine, on va dire. Hein.
Ouais, mais on voit bien que t'es pas non plus un fan, toi, de l'USM. Tu préfères les filles de Gaillac, hein.
La chose, c'est que l'USM remonte en Pro D2. D'abord, l'USM n'aurait jamais dû descendre. Sa place est en Pro D2, mais faut pas leur porter la poisse, et pas leur mettre la pression inutile. Trop tôt. On avait aussi notre petite équipe de Rodez qui avait pris, la marée chez elle contre Nevers, qui se rendait à Nevers pour le match retour. Et ben, les Ruthénois ont fait un drôle de match. Ils ont marqué 3 essais comme Nevers. Ils ont perdu que 28-24, ce que je pense, ça peut laisser des regrets sur le match aller. S'ils avaient fait un match avec moins de crainte, peut-être qu'ils s'en seraient sortis sur ces matchs aller-retour. Quoi qu'il en soit, Nevers est éliminé. Alors au prochain tour, Aubenas va rencontrer Montauban.
Malheureusement.
Espoir pour Montauban qui défend la région pour la montée en Pro D2. Et il y a eu aussi la Fédérale Une féminine, mais là on est à l'étape des finales. Et il y avait la finale Fédérale Une qui se jouait à Albi entre Gaillac et Castres. Et ben les Gaillacoises ont ramené leur troisième titre consécutif de champion de France. Champion de France fédérale 3, champion de France fédérale 2, champion de France fédérale 1. Et j'ai fait un petit reportage à la fin du match où c'était une ambiance plutôt chaude, malgré la pluie.
Oui, je suis avec Aurélie Pinot, capitaine de Gaillac. Heureuse.
Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est énorme ce qu'on a fait. On pensait jamais le faire au départ et là, c'est vraiment...
Faut pas pleurer. Championne de France pour la troisième année consécutive.
C'est incroyable. On a un staff, on a une équipe vraiment, vraiment hors du commun et c'est ça qui fait notre force.
Alors les prochaines élites ?
L'élite. Et on sera prête. On sera là. On répondra présente comme à chaque fois.
Alors félicitations à toutes. Hein. Là, combien vous êtes un groupe de combien là ?
On est une trentaine de filles, c'est énorme.
Donc il n'y a pas que 15 filles sur le
groupe ? Non, il n'y a jamais eu 15 filles. Il n'y a toujours eu qu'un groupe. Il y a eu un groupe. Alors, et on l'a démontré encore une fois.
Vous avez quelques merci à donner là, à vos entraîneurs.
Merci aux entraîneurs, au staff, au public qui nous a soutenus.
Je suis avec monsieur et madame Linares. Alors Dani, responsable de Gaillac, heureuse aujourd'hui encore.
Ah, heureuse, c'est magnifique. Trois boucliers en 3 ans. J'en peux plus.
Vous avez rappelé quand c'est vu à Gaillac, oui. J'ai fait l'interview, vous m'avez dit que ça va être dur l'année prochaine en Fédérale 1.
Eh bien, je ne peux pas dire qu'on a survolé cette Fédérale 1 parce que les matchs ont été très 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 durs les uns après les autres. On les a pris par le bon bout, on est arrivé au bout, une seule défaite. C'est magnifique, elles sont monstrueuses. C'est des joueuses monstrueuses.
Est-ce que vous pensiez les dernières que vous aviez de championne de France
tout,
une année
du
de
tout,
plus
du tout. On pensait, on voulait essayer de faire une belle saison, se maintenir. C'était notre objectif et notre souhait le plus total. Mais arriver avec un troisième bouclier...
Championne de France.
C'est magnifique.
Championne de France.
Ouais, mais l'année prochaine, l'élite, vous vous rendez compte ?
L'élite,
niveau national ?
Oui, ben si on peut y aller, on ira.
Mais bon,
vraiment magnifique.
Heureux ?
Ouais, très heureux. Ouais, encore une fois, ils ont fait preuve d'un grand courage, quoi. Même si en cours de match, on a fait quelques erreurs, mais après, ils ont su se reprendre. Il y a un groupe formidable, quoi, et ça dure depuis 3 ans, c'est incroyable.
Mais 3 années de championne de France, c'est incroyable. Je crois que ça doit être unique dans le sport féminin français. Hein.
Ben ouais, d'autant plus que c'est en montant successivement de divisions, quoi. C'est en 3 divisions différentes.
Donc, championne de France fédérale 3, championne de France fédérale 2. Et là, j'ai vu Madame Linares en interview au début de la saison. Elle me disait, on va monter en fédérale 1 en essayant de se maintenir. Et vous arrivez en finale et vous êtes champion de France.
Ouais, c'est incroyable. Mais comme j'ai dit aux filles, n'employez pas le mot chance parce que c'est vraiment dû à leur travail, l'abnégation qu'elles mettent aux entraînements, quoi, qui fait qu'elles ont ces résultats-là. Mais après, voilà, elles ont une force de caractère hors norme. Quoi.
Bon, félicitations à tout le club. Hein.
Mais merci.
Aujourd'hui, c'est un club qui a gagné, hein, je pense.
Je pense, oui. Merci.
Bravo.
Beaucoup.
Marcherie Despèche, la buteur du jour, la bête, celle qui marque l'essai de la victoire sûre, qui fait trembler tout le stade.
Ah ben attendez, c'est une victoire d'équipe, hein. Alors, voilà, c'est avant tout un groupe.
Votre sensation quand vous avez marqué cet essai qui vous libère?
Ah, un soulagement extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on était tendu, on était sous tension, c'était un gros travail d'équipe. Les avants ont fait un gros boulot devant et c'est vrai que nous derrière on en profite après parce que c'est libéré proprement et voilà, on a réussi à concrétiser. Ben après ça a été de la savonnette, mais je pense pour tout le monde, on a fait pas mal d'erreurs de main, d'en avant, etc. Mais après on a su quand même garder le jeu, occuper leur terrain et on a su en profiter. C'était un challenge alléchant et on a su le...
Et ce soir vous êtes...
On est les championnes.
Bravo, félicitations.
Ah bravo.
Dimanche à Albi, dimanche de finale de championnat de France féminin de Fédérale 1.
Ah bravo, très très beau reportage Jean-Claude. Hein. Et puis alors, quelle façon de dire comme ça, alors, heureuse, on voit que tu maîtrises quand même ça. Hein.
Ah ouais, non mais ça c'est clair parce que en plus c'était à la fin du match, hein, tu vois, elles étaient épuisées là.
On a bien entendu qu'elles étaient essoufflées. Oui.
Elles étaient au bout de nerfs, et encore, et je peux te dire que j'en ai coupé parce que hier c'était de la folie. La folie pure. Sous la flotte, c'était dingue. Enfin bon, bref, on a des locales qui sont champions de France Fédérale 1. C'est tout le mal que je souhaite à l'USM.
Bravo les filles, quand même. Allez, bravo.
d'autre, messieurs?
Bah pour le rugby, c'est tout.
C'est pas mal.
C'était pas mal. Alors, passons au foot, mon cher Vigrou. Y a-t-il des reportages sur les terrains de foot féminin? Non.
Non, nous n'avons aucun reportage, mais nous avons une magnifique victoire du RAF à Pau. C'est Pau qui en a pas eu, puisqu'ils ont perdu 1-0 sur leur terrain. Cette équipe de Pau n'avait jamais perdu sur son terrain. Il a fallu que ce soit les Ruthénois qui les crucifient. Et Rodez se trouve donc en tête avec 68 points. Grenoble, quant à eux, qui est second, est allé gagner à Monaco par 3-1. Il se trouve donc second à 64 points, avec 64 points, mais avec un match en retard, suivi de Marseille-Consola, qui est allé gagner chez le dernier Mont-de-Marsan sur le score de 2-1. Et Cannes, sur son terrain, s'est fait trier par un relégable Marignane par 2-0. Mais attention, il y a du boulot encore pour les Ruthénois. Il leur reste 3 matchs à effectuer. Le prochain match, ils vont à Nice, face à la réserve niçoise. La 28e journée, ils reçoivent Marignane. Ils sont exempts de la 29e journée, donc ils ne joueront pas, ils ne marqueront pas de points. Et je pense que la finale pour la montée en division supérieure à nationale, ce sera lors de la dernière journée où le Rodez Aveyron Football recevra hier. Donc c'est très dur encore à jouer, il ne faut pas se permettre le moindre faux pas, il faut gagner tous les matchs pour pouvoir accéder à cette sacrée division nationale. Si Grenoble en fait de même et gagne ses 4 matchs lui qu'il a à jouer, eh bien les deux équipes se retrouveront en fin de championnat à égalité de points, mais comme le goal average particulier est favorable aux Ruthénois, puisque les Ruthénois ont fait match nul à Rodez face à Grenoble et sont allés gagner à Grenoble, eh bien ce seraient les Ruthénois qui monteraient en national. Mais attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La peau de l'ours, ce sont pour les Palois, hein, puisque c'est l'emblème de l'équipe de Pau. Eh bien, Rodez devrait se retrouver dans l'élite du football français, mais rien n'est fait, ne crions pas victoire, il faut jouer les matchs comme ils vont arriver, et surtout, ne pas perdre.
Voilà, ouais, sprint final hein, pour l'accession au national, et ça, a priori, ça va jouer entre Rodez et Grenoble. Marseille, Consola peut-être réussir à s'immiscer, mais ça sera l'une des deux équipes, 50% de chance pour le RAF, bien placé actuellement.
Tout à fait, puisque Cannes n'est plus en course après sa défaite, Martigues non plus. Donc tout se jouera entre Rodez et Grenoble. Donc amis supporters, venez nombreux à Paulignon pour les deux matchs qui restent à effectuer sur le stade fétiche ruthénois, pour venir soutenir votre équipe et les faire monter en national.
Et voilà, et nous aussi on vous fera à cette occasion-là des beaux reportages avec des gens qui pleurent.
Et tu pourras dire comme ça, alors, heureuse.
On peut pas trop le dire à des garçons quand même, parce que là, on se fout. Hein.
Ok, eh ben, on passe du côté de l'handisport. Je crois qu'il y a de bons résultats en rugby fauteuil à Montauban, peut-être.
Et non, c'est le contraire.
Ah, voilà.
Et,
non.
Et justement, on va commencer par ça. Et, ben, c'est une défaite pour Montauban pour son dernier match. La semaine dernière, Montauban s'était imposé à Anglet par un bon score, en plus 47-12. Et grâce à cette victoire, on pouvait imaginer peut-être les demi-finales pour Montauban du championnat s'ils gagnaient contre le Stade Toulousain, ce qu'ils n'ont pas fait malheureusement. Alors ils perdent que de 2 points, 30-32. Mais c'était un match assez difficile. Donc et puis... le score reflète la partie, mais après il y a beaucoup de maladresse du côté des Montalbanais, et du coup à cause de cette défaite, les Montalbanais vont devoir jouer un match de barrage contre soit Rouen, soit Saint-Jory, pardon, j'avais un trou, et donc on aura la réponse la semaine prochaine.
Ok, voilà pour le rugby,
tu
nous en parleras après.
Voilà. Le basket fauteuil cette fois-ci avec les deux équipes de Toulouse qui se sont fait éliminer juste avant les playoffs les phases finales. Donc il n'y a plus d'équipe à Midi-Pyrénées puisque Caussade en plus a fini sa saison à troisième de sa poule, je vous en avais parlé déjà il y a 3 semaines. Et puis en cyclisme, Gérard Garmanier, pardon, et Christophe Barthier, deux coureurs cyclistes handisport qui sont de Mazamé, ont fini à la première et à la deuxième place de la course à Vauvert dans le Gard. Donc c'est une très belle performance. En plus que, quand ils sont du coin, faut le dire.
Bravo, bravo les amis.
Et voilà, donc maintenant on va passer à Benjamin qui va nous parler de l'actu handisport au niveau national. Salut Benjamin.
Salut Benjamin, salut cœur handisport.
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, l'actualité est plus ou moins riche. Donc la semaine dernière, c'était la dernière manche de Coupe du Monde voile handisport. Cette fois, ça se passait à Hyères, en France, sur la Méditerranée. Donc nos Français se sont brillamment illustrés. Donc en individuel, nous avons Damien Seguin qui a terminé deuxième de l'épreuve en solitaire. Donc c'est très bien. Après sa petite pause où il s'était concentré cet hiver sur la Transat Jacques Vabre, donc là il est revenu et c'est plutôt très bien. Et par équipe, donc nous avons Eric, Bruno et Nicolas. Donc eux, c'était une grosse bataille avec les Britanniques toute la semaine. Finalement, la dernière journée, c'était plutôt serré parce que ça se passait sur les 5 jours en fait, de lundi à vendredi. Mais sur la dernière journée, au finish, ils étaient premiers. Et malheureusement, pour cette dernière journée, les Britanniques ont porté réclamation, ils ont eu gain de cause. Donc finalement, nos Français sont deuxièmes après leur victoire à Miami en début d'année. Donc bon, c'est plutôt très bien. Bon, il y a cette déception parce que bon, apparemment, la réclamation n'était pas vraiment justifiée. Mais bon, c'est déjà très très bien. Donc bravo à eux. De plus, ce week-end, il y avait la Coupe d'Europe de basket fauteuil. Donc c'était aux Pays-Bas et donc nous avions un club français qui est Le Canet. Donc c'est la Coupe d'Europe, c'est l'équivalent de l'Euroleague pour le basket valide. Donc une très grosse compétition, très relevée. Et donc Le Canet est arrivé en finale. Et pour cette finale qui était très disputée, c'était vraiment, je dirais, un truc de dingue. Il y a eu match nul à la fin du temps réglementaire, donc extra time. Et à l'extra time, Le Canet a remporté la mise par 13 points à 7 dans cet extra time et remporte la victoire 97 points à 91. Donc c'est vraiment extraordinaire, on va dire que Le Canet rentre dans l'histoire du basket fauteuil et remporte ce titre après un club français qui était Meaux en 2011. Donc voilà, le basket, le handi basket français s'illustre brillamment, donc très très bien.
Quand tu parles d'extra time, c'est quoi en fait par rapport au temps réglementaire?
Bah c'est les prolongations en fait, comme en Pro A ou autre en fait.
Ouais, mais c'est quoi qui est différent par rapport au temps réglementaire? C'est combien de temps
C'est, si je ne m'abuse, ça doit être 5 minutes.
Deux fois 5 minutes, c'est ça?
Non, ça doit être une fois 5 minutes, si je ne me trompe pas.
Hein. Ah ok, et s'il y a égalité à la suite de ces 5 minutes, c'est quoi?
C'est genre le but en or ou un truc comme ça?
Alors, en basket fauteuil, je sais pas s'il y a une règle particulière ou pas, mais...
Eh bien, il faudra se renseigner. Voilà.
Ben, est-ce que c'est pas peut-être l'épreuve à 3 points, tu sais, les paniers à 3 points, peut-être?
Peut-être.
Écoute, à suivre, tu nous donneras la réponse lors de la prochaine émission.
D'accord.
Merci Benjamin pour suivre toute l'actualité de l'handisport. Il y a plein de sites internet, mais il y a une page Facebook qui est pas mal. C'est celle de Benjamin. Ça s'appelle Cœur Handisport. Salut Benjamin.
Bonne soirée à tous.
Ciao.
T'as oublié quelque chose?
Oui, c'était juste pour le cyclisme. Tout à l'heure, je parlais de Gérard Germanier, pardon. Il a quand même 16 titres de champion de France en cyclisme à son palmarès, c'est pas mal.
Eh ben voilà, il fallait que ce soit dit. C'est dit. L'agenda, messieurs, après la pub.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Jeudi 1er mai à Sept-Fonds, dénichez la bonne affaire, l'objet rare ou insolite au traditionnel vide-grenier de la Payolle de Sept-Fonds. Plus de 100 exposants, une ambiance conviviale et chaleureuse pour ce vide-grenier qui rassemble chaque année plus de 5000 visiteurs. Sans oublier le point restauration pour les gourmands, grillades, frites et les fameuses crêpes sur la plancha de Doudou. Alors, ne manquez pas cet événement jeudi 1er mai à Sept-Fonds, place du Boulodrome à partir de 6h pour les exposants et 8h30 pour les visiteurs. Renseignements sur sept-fonds.com.
En Tarn-et-Garonne, c'est naturel de partager un repas entre amis, des idées ou même sa voiture. Alors pourquoi ne pas partager la route ? Nous sommes tous, à un moment, un usager fragile de la route. Un usager sans protection. Et un jour, peut-être, une victime. En 2013, des piétons, des cyclistes ou des motards ont payé de leur vie l'inattention et le manque de partage. Si vous ajoutez l'absence de ceinture, l'alcool, les arbres et les murs, on sait tous ce que ça donne. En 2014, partagez la route. Sécurité routière. Tous responsables.
Dans les magasins Cash Converters, on convertit tous vos objets en cash. Alors, si vous voulez vendre vos jeux vidéo, vos DVD, vos téléphones, vos bijoux, de l'informatique, venez dans un magasin Cash Converters. C'est facile, c'est rapide et ça vous rapporte plein de cash.
Liste des magasins sur cashconverters.fr.
Cash Converters convertit tous vos objets en cash.
Soyez cash. Votre magasin Cash Converters à Montauban ouvre ses portes à tous. Rendez-vous galerie marchande Auchan face au parking. Cash Converters Montauban, ouvert de 9h30 à 19h30 sans interruption.
Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse, c'est toujours des conseils, des idées originales, un choix exceptionnel de plus de 500 variétés d'arbres, d'arbustes sur plus de 10 hectares. C'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Jean-Philippe Ronchini et son équipe dynamique vous accueillent tous les jours du lundi au samedi.
C'est la quinzaine de l'arbuste aux pépinières Ronchini du 28 avril au 10 mai. Venez profiter de remises jusqu'à moins 20% sur les plantes de haies et les arbustes à fleurs. Ouverture exceptionnelle le jeudi 8 mai. Renseignements sur pépinière-ronchini.com.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
On commence par le football avec l'agenda, David Fabier.
Allez, un petit peu de football. Les demi-finales retour de Ligue des Champions qui opposeront le Bayern face au Real Madrid. Après la victoire 1-0 du Real au match aller, nous allons voir si le Bayern arrive à réagir. Personnellement, moi je mets une pièce sur le Bayern quand même. Et ensuite, Chelsea face à l'Atlético, bah également, ça sera le mercredi. Et ça sera donc les places pour la finale qui se dispute lors de ces demi. Un petit mot également de Coupe de France, ça sera samedi, une finale 100% bretonne, à savoir Rennes, qui sera opposée à Guingamp du côté du Stade de France. Là, je mets une petite pièce, moi, sur Guingamp. J'ai bien envie de voir encore Guingamp gagner cette Coupe de France.
T'as beaucoup de monnaie.
Oui.
Non, je disais que t'avais beaucoup de monnaie, c'est tout.
Ouais, mais je suis pété d'oseille, tu sais pas.
Non, parce qu'il y en a qui mettent des billets, mais toi, c'est une bonne pièce quand même.
Ouais, et ensuite, on va noter l'affiche de la 36e journée de Ligue 1. Ce sera l'Olympique de Marseille qui sera opposé à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour le football.
Et si vous savez pas quoi faire ce week-end, rendez-vous à Nice pour acclamer le RAF qui affrontera l'équipe locale de l'OGC Nice.
Et puis on aura du rugby aussi ce week-end, Jean-Claude, j'imagine.
Ah ouais, ça c'est le week-end de tous les dangers pour le rugby, puisque c'est la dernière journée de la saison régulière de Top 14. Et là, c'est le gros suspense, parce qu'il y a 10 équipes qui sont concernées par les résultats de samedi. Alors samedi, du coup, de 16h30, il y en a qui vont, avec qui on pourra dire à l'heure heureux, et d'autres qui vont pleurer. Hein. Alors donc, samedi, vont jouer pour ne pas descendre Grenoble, Bayonne, Perpignan ou Oyonnax, qui des 4 va rejoindre Biarritz en Pro D2, on sait pas trop, et qui va se qualifier pour les barrages pour jouer les phases finales du championnat de France de rugby, Toulon, Montpellier, Clermont, Racing Métro, Castres, Toulouse ou Stade Français. Toulon et Montpellier sont bien placés pour les deux premières places, tandis que Clermont, Racing, Castres, Toulouse et le Stade Français vont se battre pour les places pour les barrages et gagner les matchs afin de recevoir chez elles. Il y aura aussi de la Pro D2, on jouera la 29e journée. Là, on connaît pratiquement tous ceux qui vont être en ligne pour monter. Ça va se jouer par le bas du classement entre Dax, Carcassonne, Bourg-en-Bresse et Auch. Le match que je vous conseille samedi pour le local, c'est Albi Bourgoin, ou alors si vous avez du temps, vous avez Narbonne-Béziers pour ceux qui iront au bord de la mer.
Et un tennis, faute à Oui, en tennis fauteuil, oui, pardon, c'est ça, vendredi, samedi et dimanche prochain à Azerex, c'est à côté de Tarbes. Il y aura un tournoi de tennis fauteuil, donc avec des activités handisportives. Et donc, si vous comptez avoir plus d'informations, allez sur Comité Handisport Midi-Pyrénées sur Facebook.
Merci Jennings, merci à tout le monde. On se donne rendez-vous à lundi prochain pour un nouveau lundi sport. Salut.
Ciao.
Bonne semaine tout le monde. Ciao.
Bonsoir à tous.